Vous écoutez RTL.
7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichaud, vous recevez ce matin Dominique de Villepin.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Merci. Bonjour Dominique de Villepin. Crise majeure en Espagne avec la mise sous tutelle de la Catalogne par Madrid en réponse à la déclaration d'indépendance de la région. C'est de la folie cette déclaration ?
De part et d'autre, on assiste à un dialogue de sourds. On comprend bien la position de Madrid qui campe sur les principes, une approche très juridique dans le cadre de l'unité espagnole et qui veut éviter tout dérapage. Mais malgré tout, à un moment donné, il faut que le dialogue puisse se nouer. Il faut que le dialogue se noue et il faut...
Trop de fermeté du côté de Madrid ?
Pas assez de politique. Je pense qu'on est face à un de ces défis qui concerne non seulement l'Espagne et la Catalogne, mais également l'Europe. Et nous assistons à une insuffisance de la dynamique des États-nations en Europe, de l'affirmation des États-nations et en même temps une insuffisance d'Europe. Et je trouve qu'il faudrait que dans une logique de dialogue, on puisse essayer de trouver un certain nombre d'accommodements.
Pas assez de politique. C'est souvent une formule qui revient dans votre bouche, Dominique de Villepin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel serait le mode d'emploi, dans le fond ?
Alors, par exemple, pourquoi ne pas réunir une conférence des partis, de l'ensemble des partis espagnols, pour aborder cette question ? C'est un problème qui touche à la nation, à l'État espagnol. Donc, pourquoi ne pas...
Et à la volonté des peuples.
Et à la volonté des peuples. Pourquoi ne pas y associer l'ensemble des parties prenantes du jeu politique ? Pourquoi ne pas y associer également une réflexion institutionnelle à travers vers le Parlement espagnol, au-delà des partis, je pense qu'il faut faire rouler la balle. Et s'il n'y a pas un minimum de dialogue, il y a peu de chances qu'on puisse trouver les accommodements indispensables qui doivent se trouver dans le cadre de la Constitution espagnole.
Autrement dit, ce face-à-face vous inquiète ?
Ce face-à-face m'inquiète parce que nous sommes à la merci du moindre dérapage. Nous voyons bien aujourd'hui, ce matin, qu'il y a un rendez-vous délicat qui est de savoir comment vont réagir les fonctionnaires catalans. 200 000 fonctionnaires catalans, 5% d'entre eux obéissent directement à Madrid.
Alors, on rappelle destitution du chef de la police par Madrid, 150 responsables aussi qui vont être démis.
Voilà. Comment est-ce que tout cela va s'organiser au quotidien ? Est-ce que les choses vont se passer dans le calme ? Le délai prévu d'ici aux élections est assez court, le 21 décembre, donc... convocation des élections, avec une incertitude. Est-ce que l'ensemble des parties prenantes vont accepter de participer à ces élections ? Ou est-ce que les indépendantistes...
Il y a déjà une fraction indépendantiste qui a dit qu'il boycotterait.
Il y a une minorité indépendantiste la plus dure, celle de la CUP, qui refuse. Mais est-ce que, d'une manière générale, ce mouvement va s'amplifier ? Ou est-ce qu'au contraire, ce sera le rendez-vous démocratique qui permettra de trouver une issue à la crise ?
Tout va se jouer là, dans les semaines qui nous séparent du 21 décembre. Sur le fond, cette déclaration d'indépendance, est-ce que c'est un caprice de riches d'une région effectivement qui constitue un quart du PIB espagnol. Est-ce que, parce qu'on voit ça aussi en Lombardie qui est riche aussi en Italie.
Est-ce que ces régions, en Écosse,
la tentation c'est de refuser de payer pour les pauvres.
C'est la conjonction de plusieurs phénomènes qui touchent une large partie de l'Europe. D'abord, c'est une poussée identitaire. On s'inquiète dans un monde qui change, avec une mondialisation qui inquiète, avec des inégalités qui sont croissantes. Et donc, les régions riches se posent la question, pourquoi ce partage du gâteau qui se fait à la défaveur de nos régions ?
Il y a moins de solidarité.
Moins de solidarité, une poussée xénophobe qu'on retrouve par ailleurs dans le reste de l'Europe. Donc c'est un problème qui intéresse toute l'Europe. Et on aurait tort de considérer que c'est seulement un problème catalan, un problème des Espagnols.
Les grands pays européens, pour l'instant, à commencer par la France et Emmanuel Macron, disent « voilà, nous on est derrière Madrid, point ».
Oui, je comprends très bien que la réponse officielle de l'Europe soit celle-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas inciter Madrid à ouvrir un débat, ouvrir un dialogue. Il faut voir d'où on part. On part d'un statut de 2006 qui avait été offert par le socialiste José Luis Zapatero, qui a été annulé en 2010 par le tribunal constitutionnel et qui était beaucoup plus favorable aux Catalans. Si on n'ouvre pas le jeu et on n'offre pas aux Catalans une perspective dans le cadre unitaire espagnol avec plus d'autonomie, à
plus
l'image...
De pouvoir. La réponse, c'est donner plus de pouvoir aux Catalans.
Regardons ce qui a été fait pour les Basques. Pourquoi d'ailleurs ne pas solliciter un certain nombre de mouvements régionaux en Espagne qui pourraient aussi apporter leur propre expérience et leur propre réflexion ? Les Basques ont suivi un itinéraire de la violence à la paix qui peut être utile et intéressant dans le cadre de ces débats. Donc je crois, ne nous enfermons pas, ne restons pas dans la main du hasard où la moindre étincelle peut faire déraper l'ensemble du processus, je crois qu'il faut mettre un peu d'huile dans les rouages.
Oui, et donner plus de pouvoir, c'est ça la réponse que vous esquissez.
Plus de pouvoir à la Catalogne,
pas cette mise de tutelle, sous tutelle qui vous inquiète. Jean-Guy Talamoni, qui est un leader élu démocratiquement en Corse, approuve la Catalogne. Il est un des rares responsables politiques européens à le faire. Vous trouvez que c'est responsable, c'est ça, voilà,
c'est sa ligne. C'est pas surprenant dans la bouche d'un indépendantiste
corse. Mais ça peut pas entraîner la Corse dans une espèce de dynamique comparable.
Je ne crois pas, même s'il faut rester attentif toujours au respect des identités régionales, à leur donner une place, à leur permettre de s'exprimer, à leur donner un avenir. Mais une fois de plus,
plus de décentralisation, Dominique de Villepin.
Je crois que c'est on va à la fois vers plus de pouvoir donné aux régions, et je crois qu'il faut développer ce dialogue avec les régions. On le voit bien un peu partout. C'est vrai dans les Hauts-de-France, c'est vrai dans le sud de la France. Et en même temps, vers plus d'Europe. Et ce qui m'inquiète le plus dans ce problème que souligne la Catalogne, c'est que l'Europe reste trop immobile. Emmanuel Macron avait porté la question européenne pendant sa campagne. Aujourd'hui, il faut reprendre son bateau de pèlerin.
Mais ces discours successifs, demain à Strasbourg, hier à Athènes, à la Sorbonne, sa profession de foi permanente en faveur de l'Europe,
c'est un engagement très fort.
Ça ne suffit pas.
Mais je pense qu'il faut se déplacer dans les capitales, il faut ouvrir un débat, les conventions démocratiques.
Je pense que
ce serait utile de faire une tournée, mais ce serait utile surtout de montrer aux Européens, à tous les Européens, que l'Europe apporte des réponses. Et il y a un angle mort aujourd'hui pour l'Europe qui est grave, qui est le fait que, alors même que les rapports entre les puissances sont en train de changer, les États-Unis s'effacent de la scène diplomatique et deviennent de plus en plus imprévisibles. La Chine s'affirme, on l'a vu avec le 19e Congrès, la Russie également. Nous devons, nous, Européens, combler le vide, assumer notre indépendance beaucoup plus fortement.
Il y a une faiblesse de la gouvernance aujourd'hui européenne.
Il y a une faiblesse de la gouvernance européenne.
C'est
une question de vision. Notons à quel point nous devons aujourd'hui prendre langue avec la Chine si nous voulons éviter ce vide de la puissance qui risque de s'installer avec le déficit américain.
La Corée du Nord, Dominique de Villepin, tout usage d'armes nucléaires par le Nord suscitera une réaction militaire massive, efficace et écrasante, déclaration du secrétaire d'État américain samedi en Corée du Sud. Vous avez toujours été contre le recours aux armes, c'était le sens de votre célèbre discours de 2003 aux Nations Unies. Cette politique américaine vous fait horreur ?
Elle m'inquiète également, même si James Mattis comme Rex Tillerson...
Le secrétaire d'État dont vous parlez.
Oui, tous les deux plaident pour la recherche d'une solution diplomatique. On évoque là le scénario nucléaire, mais il y a d'autres scénarios catastrophiques pour la Corée du Nord. Le scénario conventionnel pourrait faire également des centaines de milliers de morts. Le scénario chimique qui est mis en avant aujourd'hui...
c'est la guerre conventionnelle.
Oui, le scénario chimique... Ouais. Qui, parce qu'il y a un arsenal chimique nord-coréen important, pourrait lui aussi constituer une hypothèse en cas d'attaque. Donc, c'est la solution diplomatique. Nous avons sur la table un pivot, même s'il n'a pas toute l'influence que certains souhaiteraient, c'est la Chine. Nous avons un début de négociation possible à travers la proposition russe et chinoise de double gel.
La Chine est décisive, le rôle de
la Chine
est décisif.
Mais elle le sera de plus en plus. Il faut comprendre qu'il y a eu, avec ce 19e congrès, un passage de témoins des États-Unis vers la Chine. C'est aujourd'hui un partenaire incontournable de la scène internationale.
Rapidement, Dominique de Villepin, pourquoi la Chine, sur ce dossier ne va pas plus...
Alors, la Chine a fait...
plus efficace pour arrêter...
Mais la Chine a fait des avancées notables. Dans le cadre du 8e train de sanctions, la Chine a aujourd'hui décidé de sanctionner le pétrole et le gaz, les travailleurs immigrés, les entreprises frontalières. Donc il y a véritablement une mobilisation de la Chine. Encore faut-il donner à la Chine la possibilité d'avancer sur le front diplomatique, d'où l'idée d'avancer dans la recherche de la solution à travers le double gel.
Dominique de Villepin, vous permettez qu'on revienne à la France et au débat politique. Mon anti-modèle, c'est les gens comme Villepin, c'est-à-dire l'intelligence arrogante, le mépris du terrain, de l'élection. Qui disait cela de vous ?
Un certain nombre, on pourrait imaginer Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez, voilà,
Laurent
sont nombreux.
L'arrogance, c'est d'ailleurs aussi ce qu'il dénonce chez Emmanuel Macron. Il serait un bon président du parti Les Républicains, qui est le successeur de l'UMP auquel vous aviez adhéré, dont vous étiez le chef d'ailleurs.
Les Républicains choisiront. Il y a trois candidats, Florence Portelli, Mel de Calan, qui chacun, et Laurent Wauquiez, qui chacun représente une sensibilité. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un esprit de rassemblement. et ce que je souhaite, c'est que Laurent Wauquiez, qui est aujourd'hui le mieux placé, puisse ne pas négliger cette dimension qui me paraît essentielle, sans quoi la droite sera de plus en plus une droite croupion qui courra sur les basques du Front National.
Une droite croupion qui fera la course derrière le Front National, c'est déjà le cas depuis...
C'est la tentation. C'est la tentation d'échec en échec, c'est d'aller toujours vers plus de droitisation, alors même qu'il faut tout simplement faire un vrai travail d'opposition. Aujourd'hui, ce travail d'opposition, non seulement critique, il est fait par un certain nombre, Jean-Luc Mélenchon et d'autres, mais un travail de proposition. La clé, le devoir d'opposition, c'est de proposer des alternatives. Aujourd'hui, on discute du budget, proposer des alternatives en matière diplomatique, proposer un certain nombre de réponses et de solutions.
On comprend que pour Laurent Wauquiez, il y a encore du travail sur ce plan-là. Vous avez soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle, après avoir soutenu Sarkozy à la primaire. Et il y a du Sarkozy chez Macron?
Non, je n'ai jamais soutenu Sarkozy à la primaire. C'est fait partie
vous
des
aviez,
légendes.
Alors,
jamais.
Donc jamais. Vous aviez eu des mots, on va dire, finalement assez positifs à son égard.
Au moment de l'élection à l'UMP, de sa candidature à la présidence de l'UMP, mais j'étais beaucoup plus proche d'Alain Juppé dans le cadre de la primaire. Mais je n'ai pas pris position.
Il y a du Sarkozy chez Macron, comme certains le disent.
Vous savez, il y a toujours la tentation d'aller chercher des modèles ou des références ici et là. Je crois qu'Emmanuel Macron est Emmanuel Macron. Il affirme une présidence qui lui est propre. Ce qui est important, c'est qu'il écoute tout le monde et qu'il cherche à tous les jours davantage faire mieux. C'est l'objectif d'un président de la République. Je pense qu'il faut beaucoup de modestie dans ses fonctions, surtout dans un monde qui change et devant des Français qui sont et qui restent très impatients.
Il y a un débat, pour finir, Dominique Villepin, pardon, qui secoue, et pas seulement la société française, une question personnelle. Est-ce que vous avez eu, au cours de votre vie politique professionnelle, des retours de harcèlement sexuel par certaines personnes? Et à ce moment-là, vous n'avez rien dit parce que, voilà, il régnait sur ce sujet une forme d'omerta.
Non, je n'ai jamais été témoin, même si j'ai eu...
Ou récepteur de témoignages? Jamais.
Je l'ai connu comme chacun dans ma vie personnelle, ma vie familiale, et je connais les humiliations et le sentiment de honte qu'un certain nombre de femmes peuvent ressentir dans ces moments-là. Donc je suis heureux que la société française s'ouvre à cette réalité, puisse prendre les choses en main, que la parole se délie, parce que c'est la première étape vers une action et une mobilisation, ce qui concerne l'ensemble de la société française. Et il y a bien sûr les faits extrêmement graves, pénalement répréhensibles de viol, mais il y a aussi ce harcèlement quotidien. Je suis très sensible en particulier au fait que combien de plaintes dans le métro, combien de sentiments d'agression dans le métro et dans les transports publics, ça fait partie d'une culture, d'une éducation. Nous devons changer, nous devons nous transformer et c'est un défi pour la nation tout entière, pas uniquement pour quelques-uns.
Merci beaucoup Dominique Villepin d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Et sur l'actualité du jour, en l'occurrence la Catalogne, on est face à une crise qui concerne toute l'Europe, nous a dit Dominique de Villepin. Nous sommes à la merci du moindre dérapage. Tout le continent est en ce moment touché par une poussée xénophobe. L'Europe reste trop immobile, a conclu Dominique de Villepin. Puis on notera cette formule typiquement villepiniste. Ne restons pas dans la main du hasard. Merci à l'un et à l'autre.